le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour.
Bonjour.
Amnesty International de retour sur les ondes de Radio FM+. Bonjour à tous
et bonne année.
Et une bonne année. Oui, c'est Jean-Marie et Adeline.
Bonne année pour les droits humains.
Voilà, hein. On l'espère. Et justement, à ce propos, Adeline, l'idée nous est venue de faire un bilan des actions menées par Amnesty en 2019, d'autres associations aussi, bien sûr. Alors, on ne va pas tout vous dire parce que ça serait très long, mais on vous a fait un petit,
petit résumé quand même des
de combats, voilà. De victoires et d'avancées en matière de droits humains.
Parce qu'il y a des choses qui portent leurs fruits et qui fonctionnent quand même très bien.
Et ce qui encourage, encore une fois, les militants et vous qui nous écoutez à signer les pétitions et aller sur le site d'Amnesty pour voir ce que vous pouvez faire, parce que chacun peut faire quelque chose. Alors on va faire ça chronologiquement, en commençant par janvier.
Ben
Adeline,
oui.
Que s'est-il passé en janvier 2019?
Alors, en janvier, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de victoires, mais on va vous en citer une. C'est des services d'avortement légal qui ont enfin été mis en place en Irlande. Parfois on pense que l'Irlande, comme c'est l'Europe, eh ben non, ça n'existait pas. Et donc il y a eu un référendum en mai 2018 qui a été une grande victoire. Et donc voilà, aujourd'hui, en Irlande, l'avortement est légal et il y a des centres où les femmes peuvent aller. Donc on se réjouit parce que ça a été un long combat d'associations irlandaises soutenues par Amnesty. Alors
en février, grâce à l'attention de la communauté internationale et au travail de campagne d'Amnesty, les autorités saoudiennes ont annulé l'exécution de la militante Isra Al-Ghanem, requise par le ministère public pour des accusations liées à sa participation pacifique à des manifestations. Isra Al-Ghanem encourt toujours une peine de prison et Amnesty continue de faire campagne en faveur de sa libération immédiate et inconditionnelle. On passe à mars.
Alors, au mois de mars, au Kyrgyzstan, pays dont on ne parle pas très souvent, Gulzar Diouchenova, qui défendait depuis des années le droit des personnes handicapées, et ben sa persévérance a fini par payer parce que le Kyrgyzstan a enfin signé la convention relative aux droits des personnes handicapées. Des militants et des militants d'Amnesty avaient envoyé jusqu'à 250 000 messages de soutien avait reçu cette jeune femme.
Donc ça paye. Hein.
Comme quoi ça paye, effectivement. Alors, au mois d'avril.
Eh bien, au mois d'avril, une petite nouvelle brève. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a annoncé que son gouvernement présenterait une loi en vue de l'abolition de la peine de mort. Donc, on ne sait pas s'il l'a fait depuis. On vous tiendra au courant parce que parfois, il y a des annonces et puis il n'y a pas de suite.
Et qui ne sont pas suivis des faits. Mais
oui.
Bon. C'est un petit pas.
Au mois de mai.
Alors, le Qatar, pays dont on vous parle souvent, s'est engagé à modifier son droit du travail à l'approche de la Coupe du Monde 2022. Parce que vous savez que ça avait été extrêmement décrié.
Le football. Hein.
Le football, voilà. Donc quand même, la pression des groupes des défenseurs des droits humains, on peut dire qu'elle a joué quand même un rôle dans la décision de la FIFA, de renoncer à augmenter à 48 le nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde, ce qui aurait nécessité de nouveaux pays d'accueil. Amnesty a travaillé avec une grande coalition en fait d'ONG, des syndicats, des groupes de jeunes fans de foot sur les risques de cette augmentation qui aura entraîné des exactions en termes de droits humains, voilà, et surtout sur le calvaire des travailleurs migrants du Qatar, ouais. Hein, dont on vous parle souvent.
Terrible.
Donc, on va surveiller pour voir si ça se passe bien comme ils nous l'ont dit. Au mois de juin.
Alors au mois de juin, le 1er juin 2019, les contraceptifs et les consultations de planning familial sont devenus gratuits au Burkina Faso. Alors cette évolution est considérée comme une conséquence de notre pétition « Mon corps, mes droits » de 2015. Donc il a fallu du temps, vous voyez,
mais ça a abouti.
Et du manifeste d'Amnesty International pour les droits humains qui appelait à la mise en place de ces mesures. Une fois les obstacles financiers éliminés, les femmes de ce pays, le Burkina Faso, auront droit plus facilement accès au contrôle des naissances et davantage de prise sur ce qui concerne leur corps. Au mois de juillet.
Alors au mois de juillet, quelque chose d'un peu différent, mais pour lequel Amnesty se mobilise souvent. Aux États-Unis, lors d'une audience devant le Congrès, un haut dirigeant de Google a donné la première confirmation que l'entreprise avait mis fin au projet Dragonfly. Alors ce projet Dragonfly, c'est un programme secret de développement d'un moteur de recherche qui facilite la surveillance et la censure répressive d'Internet par le gouvernement chinois.
Ouais. Hein,
voilà. Donc cette décision, ça fait partie de la campagne contre Dragonfly d'Amnesty, bon, et de la mobilisation en plus de centaines de membres du personnel de Google eux-mêmes, hein, qui avaient alerté à l'intérieur. Voilà, une prise de conscience. Donc on est très heureux que ces programmes de recherche sur Internet soient interdits.
On espère qu'ils seront abandonnés définitivement.
Au mois d'août.
Au mois d'août, l'Arabie Saoudite a annoncé d'importantes réformes pour alléger certaines des sévères restrictions imposées aux femmes au titre du système de tutelle masculine. Alors notamment en leur accordant le droit d'obtenir un passeport, ce qui devrait leur donner la possibilité de voyager sans la permission d'un tuteur de sexe masculin.
Ça, c'est très important.
Les modifications accordent également aux femmes le droit de déclarer des mariages, des divorces, des naissances et des décès, et d'obtenir des livrets de famille. Bien que nous nous réjouissions de ces évolutions, des personnes faisant campagne pour les droits des femmes sont toujours emprisonnées, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour lutter pour leur libération. En septembre, on va passer
en Tunisie, où la militante Maïssa Al-Waslati, de 18 ans, donc très jeune, a été mise hors de cause pour toutes les charges qu'elle avait retenues contre elle. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait, cette très jeune fille ? Eh bien, elle avait fait l'objet d'accusations, bon, forgées de toutes pièces, mais qui auraient pu lui valoir jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Maïssa et son frère, qui avait 16 ans, avaient été arrêtés par la police au mois de septembre pour avoir fait quoi ? Simplement filmer un manifestant qui menaçait de s'immoler par le feu devant un poste de police. Et pour ça, elle avait été arrêtée. Et donc, voilà. Donc on se réjouit qu'elle ait été libérée. En octobre.
Alors en octobre, le journaliste... Alors attends, où j'en suis ? Oui.
Voilà.
Allez, on y arrive. En octobre. Où est-ce que c'est ? Oui. Grein Tegart, chargé de campagne sur l'Irlande du Nord à Amnesty, a déclaré qu'il s'agissait du début d'une nouvelle ère pour l'Irlande du Nord, dans une nation libérée des lois répressives qui régissent les décisions sur le corps et la santé des personnes. Parce qu'une tentative de dernière minute du parti unioniste démocrate de renverser le projet de loi, donc sur le mariage entre personnes du même sexe, cette tentative a échoué et le mariage entre personnes du même sexe a été légalisé en Irlande du Nord et l'avortement dépénalisé.
Eh bien, ça avance.
Toutes les poursuites engagées ont été abandonnées, y compris celles contre une mère qui était poursuivie pour avoir acheté sur Internet des pilules abortives pour sa fille alors âgée de 15 ans.
Eh bien, c'est pareil, on dirait pas qu'en Irlande, qui est quand même un pays si proche d'une autre, il se passe encore des choses aussi obscurantistes. Alors, au mois de novembre, il y a un journaliste kurde iranien, Behrouz Bohchahani, est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un visa de visiteur obtenu grâce au parrainage d'Amnesty International. C'était quelqu'un pour qui on avait fait campagne.
Ouais.
Vous aviez pu signer des pétitions sur notre site. Donc, et c'est la première fois qu'il a pu sortir de son pays. C'est quelqu'un qui est très connu pour avoir dénoncé les violations des droits humains depuis l'intérieur des centres de détention pour réfugiés du gouvernement australien. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais effectivement, le gouvernement australien a une politique extraordinairement répressive pour les migrants. Donc, il a pu sortir de Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis son placement en détention sur l'île de Manus en 2014. Donc, ça faisait quand même plus de 5 ans
hein.
qu'il était là-bas. Et en décembre, pour finir l'année,
d'Afrique. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est prononcée contre l'interdiction faite par le gouvernement de Sierra Leone aux jeunes filles enceintes de passer des examens et de suivre des cours dans un établissement ordinaire et a ordonné sa révocation immédiate. Voilà, donc c'était la double peine pour ces jeunes filles qui se retrouvaient enceintes
souvent contre leur gré,
évidemment, hein, à 13, 14, 15 ans, voire moins, et qui se voyaient interdites de scolarité. Donc la Sierra Leone s'est trouvée condamnée pour cette mesure et c'est une bonne chose. Donc on vous encourage encore une fois. Allez sur notre site et signez les pétitions en faveur des gens qui sont
battus, torturés, et pour ceux qui luttent pour les droits humains. Voilà, et on espère qu'en 2020, on aura un bilan encore meilleur. Merci beaucoup.
À tout de suite.
À tout de suite.
Alors, reprise de notre émission avec Adeline, toujours sur les ondes de FM+, c'est Jean-Marie qui vous parle. Donc, vous savez que depuis des mois et des mois, il y a des violences qui secouent Hong Kong.
Oui, on en entend beaucoup parler.
On en entend beaucoup parler, voilà. Et bon, qui continue. Hein. Et ce dont on n'a pas beaucoup entendu parler et que dénonce Amnesty, c'est que la police procède à des violences sexuelles sur des manifestants et surtout des manifestantes, n'est-ce pas, Adeline ?
Absolument. Alors, c'est vrai que les scènes de manifestants qui traversent les nuages de gaz lacrymogènes sont devenus très familiers à Hong Kong et sont devenus très familiers quand on les voit sur nos chaînes des médias. Mais ce n'est pas les seuls facteurs de peur, en fait. Voilà qu'il y a des allégations de harcèlement sexuel et d'agression contre les manifestants qui circulent, en fait, depuis le début du mouvement de contestation dont la communauté internationale a eu connaissance, on va dire à peu près depuis le mois de décembre. Il y a des vidéos de policiers qui filment les dessous des femmes pendant qu'elles sont arrêtées, des fouilles au corps humiliantes et injustifiées. Bon, donc on a quand même des preuves de ces informations. Les quelques femmes qui se sont exprimées sur le sujet, ben évidemment, se heurtent à des réactions extrêmement négatives. Hein. Notamment, certaines ont vu leurs données personnelles fuiter en ligne, sur les réseaux sociaux. D'autres sont la cible de fausses sextapes, tu vois, pour être discréditées, ou alors sont carrément harcelées au téléphone. Alors évidemment, ces atteintes, ça vient de trolls anonymes, hein, comme on dit, c'est-à-dire c'est très difficile de les trouver. Mais ce que dénoncent Amnesty et d'autres organisations, c'est que les autorités de Hong Kong ont créé un espèce de climat propice à ce genre d'agissement, en calomniant les manifestants et bien sûr en s'abstenant de mener une enquête indépendante sur le débordement de la police. En fait, la police fait comme si ça n'existait pas. Et quand par hasard, elle admet que ça existe, elle rejette la faute sur les manifestants.
Et on ne trouve pas les responsables. Voilà.
Et bien sûr, on ne trouve pas les responsables.
Alors le problème, c'est que la stigmatisation sociale et la peur des victimes de signaler les violences ne permettent souvent pas de dresser un tableau précis de l'ampleur de ces violences sexuelles.
Oui, parce que c'est très compliqué à dénoncer,
ben oui,
on voit bien.
Et à Hong Kong, un obstacle supplémentaire s'ajoute. C'est nombreux sont ceux qui ne veulent pas que leur famille ou leurs employeurs sachent qu'ils participent aux manifestations. Voilà, il y a une pression sociale.
Une pression, oui, très forte.
Et en octobre dernier, donc, la Commission pour l'égalité des chances de Hong Kong a signalé avoir reçu plus de 300 signalements concernant des allégations de harcèlement sexuel imputables à des policiers, mais aucune plainte de victime présumée. Alors toutefois, les déclarations et les recherches d'organisations locales laissent à penser que le problème est systématique. D'après un sondage en ligne réalisé par Ryan Lilly, une association d'aide aux victimes, 67 personnes interrogées, 58 femmes et 9 hommes, ont signalé avoir subi des violences sexuelles dans le cadre des manifestations.
Mais disons, c'est quand même important
beaucoup,
comme nombre, c'est beaucoup.
Et
c'est
ces violences
beaucoup.
Se déclinent de propos à connotation sexuelle, à des, je cite, « relations sexuelles illégales imposées sous la menace ou l'intimidation ».
Oui, c'est ce qu'on appelle un viol.
Voilà. Oui, les policiers, comme les contre-manifestants, sont pointés du doigt. Alors certains se sont exprimés sous couvert d'anonymat, notamment lors d'un rassemblement hashtag protest2 de 30 000 personnes au cours de l'été. Toutefois, si la question a fait les gros titres des journaux du monde entier, c'est surtout grâce à deux jeunes courageuses femmes, Madame X et Sonia Ng, anonymées, hein, toutes deux suscitent des réactions très négatives et subissent les critiques de la population, illustrant les risques inhérents au fait de dénoncer des violences sexuelles. C'est quand même un comble. Hein. Alors, Madame X et Sonia Ng, deux femmes prennent la parole. Qui sont-elles?
Bon, alors, elles ont au moins, elles ont eu le courage de parler. Alors, Sonia Ng, c'est une étudiante à l'université chinoise de Hong Kong, qui est la seule, pour l'instant, manifestante qui a accusé la police de violences sexuelles sous son vrai nom. Les autres ont tellement peur qu'elle n'ose pas le faire. Donc elle affirme que les policiers l'ont frappée sur les seins pendant sa détention et qu'elle a dû subir les conséquences de sa décision, le fait d'avoir porté plainte. Elle nous dit « Les gens disent des choses comme « Oh, mais c'est une fille facile !» D'autres mettent en doute le fait que je dise la vérité et émettent des critiques sur mon milieu familial, voire même sur ma santé mentale. »
Hein, ouais,
qui l'accuse
loin,
d'être un peu folle, de dire n'importe
loin,
quoi. Ouais. Les personnes, dit-elle, ne veulent pas reconnaître les problèmes que j'ai soulevés. Et en fait, ils préfèrent neutraliser la personne qui les dénonce. Les gens, voilà, peut-être parce que pour certaines personnes, c'est tellement incroyable qu'ils ne croient pas la personne qui dénonce. Mais du coup, ces intimidations, ça rend très compliqué les témoignages des victimes à visage découvert. Et on sait bien que la justice, voilà, dit toujours s'il n'y a pas de preuves, si les gens ne veulent pas porter plainte.
On ne peut pas aller plus loin.
On ne peut pas aller plus loin. Alors, une autre dame, donc Madame X, elle, a décidé de témoigner anonymement. Le 9 novembre, la police de Hong Kong a confirmé qu'une femme avait porté plainte le 29 octobre, affirmant avoir été violée par plusieurs policiers au poste de Tsuen Wan. Cette jeune femme de 18 ans, connue donc sous ce pseudonyme de Madame X, a affirmé qu'elle avait même dû avorter après le viol en donnant son accord à la police pour recueillir un échantillon d'ADN sur le fœtus avorté afin d'identifier l'un de ses assaillants. Donc c'est absolument épouvantable. Ouais. Et cette femme, elle ne peut même pas le porter plainte sous son nom, tellement elle a peur des représailles. Donc après la plainte de Madame X, la police a quand même décerné un mandat de perquisition. Mais elle a demandé un mandat de perquisition pour obtenir les dossiers médicaux auprès de la clinique de son médecin privé, sans le consentement de Madame X, y compris des dossiers bien antérieurs aux accusations. En gros, ils ont demandé à la clinique de récupérer de leur donner tous les dossiers, ouais, probablement pour pouvoir la discréditer encore plus. Ouais. Quand elle a découvert ce qui s'était passé, cette femme a donc contesté le mandat de perquisition devant un tribunal avec son avocat. Le magistrat a quand même annulé ce mandat de perquisition après avoir réexaminé le dossier. Mais c'était un peu tard parce que la police avait déjà son dossier. Bon, alors, tout ça, heureusement, a fuité sur Internet, mais à la fois pour la discréditer et en même temps pour attirer l'attention des gens sur ce cas. Il y a eu d'autres articles dans la presse, mais finalement, le chef de la police des directions de relations publiques a fait une déclaration aux médias en disant que Madame X était un peu perturbée mentalement. Voilà. Donc, l'avocat est absolument ulcéré, et donc ils essayent de mener une enquête un peu parallèle, mais pour dénoncer ce que fait la police. Donc c'est vraiment très difficile et très, très courageux de la part de cette femme et de son avocat.
Effectivement. Alors Amnesty a demandé à plusieurs reprises une enquête indépendante et impartiale sur le comportement de la police de Hong Kong. Le gouvernement fait valoir de son côté qu'il existe déjà un mécanisme approprié, le Conseil indépendant des plaintes contre la police. Mm-hmm. Cependant, le groupe d'experts internationaux nommé par le gouvernement a conclu que cet organisme présentait de graves lacunes dans les pouvoirs, les capacités et les compétences d'investigation indépendantes nécessaires pour être à la hauteur des récentes manifestations et des normes internationalement requises pour un organisme de surveillance de la police travaillant dans une ville qui valorise la liberté et les droits. Voilà, en termes plus simples, cet organisme n'est pas compétent et partial.
Hein. Alors, très partial, surtout.
On rappelle que les allégations de violences sexuelles sont l'un des motifs majeurs devant inciter à mener une enquête indépendante et impartiale, donc sur la conduite de la police. Toute violence contre les manifestants doit cesser, demande Amnesty, ainsi que d'autres associations.
Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça aussi sur notre site, et soyons attentifs pour voir si les médias, au-delà de nous montrer des images de manifestations, font un petit peu des enquêtes pour savoir ce qui se passe véritablement dans la police hongkongaise. Et bonjour. Alors, aujourd'hui, maintenant, là, on va vous parler de quelque chose d'un peu différent dont vous avez sûrement entendu parler dans les médias, c'est le Paris-Dakar.
Oui, qui...
qui n'est pas du tout ni à Paris,
ni à
Dakar,
mais qui se déroule, où, cette année ?
En Arabie Saoudite.
Eh oui, qui a acheté les droits, voilà, et puis les consciences aussi, c'est ce qu'on va dénoncer, justement.
Voilà, parce que quand même, il y a un groupe d'ONG dont fait partie Amnesty qui voudrait attirer l'attention des organisateurs et du gouvernement français sur ce Paris-Dakar qui se déroule dans un pays où le moins qu'on puisse dire, c'est que les droits humains ne sont absolument pas respectés. Alors, l'organisation qui s'occupe de ce Paris-Dakar, c'est Amaury Sport Organisation, parfois appelée ASO. Donc, on aimerait que ASO mette fin au profit en organisant ce rallye Dakar en Arabie, ou alors qu'elle mette à profit cet argent pour dénoncer la persécution des militants et des militantes souvent dans ce pays.
Oui.
Hein, on rappelle que malgré les annonces du prince sur les droits des femmes, il y a encore aujourd'hui des femmes emprisonnées en Arabie Saoudite et des hommes, bien sûr.
Et des violations des droits humains.
Voilà. Donc, on aimerait quand même que Amaury Sport fasse entendre leur voix contre les mauvais traitements que le gouvernement saoudien inflige aux militantes des droits des femmes qui plaident. Alors, celles qui avaient plaidé pour le droit en faveur de conduire, alors normalement aujourd'hui...
On vous en a parlé tout à l'heure aussi.
C'est autorisé, mais ça n'empêche qu'il y a encore des femmes qui sont emprisonnées, comme Samar Badawi, Loujane Al-Altoul et Nassima Al-Sada, qui au départ avaient été emprisonnées et accusées pour ces histoires de droit à la conduite, mais du coup maintenant c'est quelque chose de plus vaste qu'on leur reproche, c'est uniquement d'avoir lutté en faveur des droits des femmes.
Oui. Bon. Alors un rappel à ce propos, les sponsors, les diffuseurs et les sportifs sont concernés par le choix des instances sportives d'organiser des événements majeurs dans des pays qui violent les droits humains fondamentaux. Ayant conclu une relation de 5 ans quand même avec l'Arabie Saoudite, ça a été bien acheté, Amaury Sport Organisation, donc ASO, devrait aussi adopter et mettre en œuvre une politique en matière de droits humains permettant d'identifier les risques et user de son influence pour promouvoir le respect des droits humains dans ce pays, ainsi qu'à travers toutes ses activités. Conformément aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, la FIFA, donc la Fédération Internationale de Football, ainsi que d'autres grandes organisations sportives ont adopté des politiques de ce genre.
Voilà, alors, comme tu le disais, les gens qui participent au Rallye Dakar, je veux dire, on peut pas aller faire courir dans des voitures, faire de la course dans un pays comme l'Arabie Saoudite en faisant comme si on n'était pas au courant de ce qui se passait.
Même, hein.
Voilà. Je rappelle quand même qu'en 2019, le principal organe international dédié à la défense des droits humains, donc le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, s'était déjà penché sur le bilan de l'Arabie Saoudite en matière de droits humains. En mars, l'Islande, au nom de 36 États, a effectué la première déclaration conjointe qui appelait entre autres à libérer 10 défenseuses ou 10 défenseurs, eux, des droits des femmes, à rendre justice dans l'affaire de l'exécution de Jamal Khashoggi.
Oui.
Donc ce sont des choses qui sont connues maintenant. Hein, et il y a des pays, comme par exemple l'Australie, qui ont pris des initiatives d'une autre déclaration conjointe exposant une liste de mesures que le gouvernement saoudien devait prendre afin d'améliorer son bilan en matière des droits humains. On rappelle également, puisque le Paris-Dakar donc, vient de s'achever, qu'il y a eu un bilan...
Ça s'achève aujourd'hui, 17.
Qui a fait un bilan, on va dire, un peu écologique de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Un bilan carbone absolument épouvantable. En fait, on s'amuse dans le désert, on pollue le désert entre le kérosène, l'essence, les hélicoptères, la nourriture. Parce que ça a été dénoncé aussi par toutes ces organisations qu'il n'y a évidemment pas de recyclage de déchets. Donc tous ces déchets sont enfouis dans le désert. Donc dans quelques années, bien sûr, tout ça va ressortir. Et donc, cette organisation, donc ASSO, ne s'occupe absolument pas ni des droits humains, ni des droits environnementaux, parce que ça fait aussi partie des droits humains. Il n'y a pas de raison que les Saoudiens voient leur désert pollué et abîmé, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire de la course automobile, ce qui en soi n'est absolument pas condamnable, dans leur pays. Donc la moindre des choses, ça serait qu'effectivement cette organisation se joigne aux déclarations de la Commission des droits humains de l'ONU pour reconnaître sa participation et faire effectivement de la publicité, mais cette fois-ci à bon escient, pour les droits humains. Donc on espère que on va attirer son attention là-dessus et que si l'année prochaine le Paris-Dakar doit se dérouler dans je ne sais pas quel autre pays, on fasse aussi, voilà, on mette aussi en lumière ce qui se passe dans les pays où on va s'amuser pour la course automobile.
Allez, on termine
avec un autre sujet qui est la reconnaissance faciale.
Ah,
alors, Jean-Marie...
Tout aussi grave, ça.
Tout aussi grave, voilà. Parce que juste avant Noël, et donc là, ça va se mettre en place pour le début de l'année, le secrétaire d'État en charge du numérique a annoncé que la France allait lancer en 2020 un grand programme en phase d'expérimentation de la reconnaissance faciale appliquée à la vidéosurveillance.
On n'a pas beaucoup entendu parler au moment des fêtes de Noël,
comme par
hasard. On n'a
pas du tout entendu parler. Alors, c'est curieux, parce qu'on aurait quand même pu croire qu'avec Edward Snowden, toutes ces affaires, etc., qui montraient quand même que ces systèmes étaient très dangereux, ça allait changer. Eh bien, pas du tout. En fait, la surveillance de masse, hein, Amnesty le dénonce souvent, mais alors souvent, on le dénonce pour d'autres pays, comme la Chine, par exemple. Eh bien, voilà qu'en France, au lieu de s'appuyer sur les conclusions quand même un peu négatives, eh ben on va faire la même chose. Donc on est un peu affligé de voir que tous ces outils informatiques servent, on le pense quand même, à des questions sécuritaires, mais qui vont un peu à l'encontre quand même des droits humains. Parce que d'abord, on ne connaît pas du tout le cadre juridique de cette expérimentation. La CNIL a posé des questions, puisque normalement, en France, sur la loi, il y a une loi sur la protection des données qui interdit la reconnaissance faciale sans consentement. Donc on ne sait pas du tout comment le gouvernement prévoit de recueillir le consentement des citoyens
des gens,
dans les villes où ça va être expérimenté. On ne connaît pas l'objectif poursuivis par cette expérimentation. Bon. On ne sait pas quels sont les liens de cette initiative avec l'application. Donc, c'est une application qui s'appelle Alicem, dont la sortie prochaine a été annoncée, alors qu'elle inquiète déjà les organisations de défense des libertés dans des pays comme les États-Unis. Alors, pour l'instant, le secrétaire d'État n'a absolument pas répondu. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'on expérimente une technologie qui est la même que celle qui sert en Chine à imposer à la population un contrôle facial de tous les instants. Cette même technologie a été utilisée à titre expérimental à San Diego, en Californie, et les autorités américaines elles-mêmes ont reconnu que ça n'était absolument pas utile.
Ah bon, hein,
parce qu'aux États-Unis, tu sais, on est beaucoup... C'est plus qu'une question morale, parfois on se pose la question de l'utilité.
L'utilité, bah, donc, voilà. C'est un minimum aussi, hein, bon. Savoir si ça sert à quelque chose.
Voilà, donc les Américains eux-mêmes ont reconnu que ça ne servait pas. Mais ce qui est quand même beaucoup plus dangereux, c'est que selon un rapport du National Institute of Standards and Technology, la fiabilité donc, de ces systèmes de reconnaissance laisse à désirer, en particulier lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes non blanches. Parce qu'en fait, ils ont été construits, tous ces systèmes de reconnaissance faciale, en utilisant une très large majorité de personnes de type, tu sais, caucasien.
Oui.
Bon. Donc, ça introduit un biais discriminant, ce qui fait que les personnes asiatiques ou noires, d'après cette étude, font 100 fois plus l'objet d'erreurs d'identification que les personnes blanches. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tout ça est connu et dénoncé par les associations de défense des libertés, mais apparemment, ça n'empêche pas le gouvernement français de s'y mettre.
D'expérimenter.
Alors, on a plein d'exemples dans les autres pays européens, comme en Grande-Bretagne, où on arrive à des aberrations. Par exemple, il y avait un homme qui a été condamné à une amende, parce qu'il passait donc devant une de ses caméras, parce qu'il avait soi-disant caché son visage. Donc il a eu une contravention, ça s'appelait nuisance à l'ordre public.
Ah ouais, ça va
voilà.
loin. Hein.
Il ne le faisait
ça
pas exprès, hein. Il est passé devant, voilà. Bon, donc, quand même, on peut se poser des questions, et puisque le gouvernement dit que c'est une expérimentation, nous espérons que les journalistes... Donc c'est quand même le travail, vont suivre cette expérimentation et nous dire si vraiment elle est utile, si elle respecte les libertés publiques, si le consentement de la population a été donné.
Vraiment pris en compte.
Voilà, ouais. Et si surtout la loi quand même va bien encadrer toutes ces pratiques et s'il va y avoir un retour démocratique au niveau du Parlement pour nous rendre compte de ce bilan et pour nous dire si ça a été utile. Et
surtout si
respect,
ça ne va pas être généralisé sans le consentement de la population, ce qui serait très grave. Hein.
Donc, hein, il ne faudrait pas décrier les modèles de ce qui se passe, ailleurs en Chine, etc. Et puis s'apercevoir que finalement en France,
tout doucement, on fait la même chose.
Voilà. Et surtout, ce que dit bien ce rapport aussi, que ce n'est pas parce que certaines personnes aimeraient que ça soit comme ça, désireraient que ça soit comme ça, qu'il faut s'appuyer là-dessus.
Ouais.
On est encadré en France par des lois, hein, donc il faut vraiment rentrer dans le cadre de la loi. Donc, on va surveiller de près cette histoire de reconnaissance faciale pour être sûr que ce système de surveillance, hein, parce que c'est quand même ça, ce système de surveillance n'aille pas à l'encontre des droits humains. Voilà.
Très bien, merci.
Donc, beaucoup de boulot pour cette année et on compte sur vous.
Et on vous tient au courant.
Et n'hésitez pas à aller sur notre site amnesty.fr.
Merci à tous. Au revoir.